Et alors, le début de la paracha, Parashat Maaseh, a l'air d'être une suite de ce qui se passait dans Parashat Bamidbar. On reprend au niveau du dénombrement, plus exactement donc de la qualification aussi, mais cette fois-ci au niveau des Bnei Gershon, donc à l'intérieur de la tribu de Lévi. Et c'est un peu compliqué, si vous voulez, c'est d'essayer de trouver un fil conducteur dans cette Parashat Maaseh. Alors évidemment, tout le monde sait qu'il y a, dans Parashat Maaseh, il y a la Parashat de la Sota, suivie ensuite de la Parashat du Nazir, avec la fameuse Dracha, que celui qui voit la Sota avec il Kula, Yaziratmo Minayain, que celui qui a vu le traitement qui est fait à Sota, il est censé en être impressionné, parce qu'il y a la dégradation, en quelque sorte, de la Sota durant le processus. Et donc, une des choses qu'on dit à la Sota, on lui dit, peut-être pour essayer d'expliquer, pour l'aider, en fait, à dire qu'elle ne veut pas continuer la procédure. Elle n'est pas du tout obligée de dire qu'il s'est passé quelque chose. Elle peut simplement dire qu'elle a peur. C'est un peu effrayant, tout ce qui va arriver. Si elle dit qu'elle a peur, ils vont être obligés de divorcer et elle va perdre sa ktouba. C'est un problème d'argent. Ça peut être difficile, le problème d'argent, mais ça, c'est jamais qu'un problème d'argent, si vous voulez. C'est pas quelque chose de... C'est tout. Mais néanmoins, dans cette procédure, elle passe un mauvais quart d'heure et... Celui qui verrait cela, alors qu'a priori il n'y a pas tellement de gens qui le voient, mais celui qui verrait ça, ou qui verrait ce qui est décrit dans la Torah, il devrait en tirer les conséquences et il devrait se priver de boire, parce qu'une des raisons qu'on donne de la conduite de la Sota, c'est de dire peut-être que tu étais entraîné parce que tu es en état d'ébriété éventuellement et tu a relâché un petit peu la conduite. Bon, là on peut dire qu'effectivement tu aurais dû, tu n'aurais pas dû boire, et celui qui voit ça, il est incité à ne pas boire. Mais c'est une drachée un peu compliquée, parce que de là à devenir nazir, d'accord, le nazir il ne boit pas, mais il y a plein d'autres choses, qui les contraintes, et on peut se demander pourquoi il faudrait... Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro, s'il vous plaît. On ne voit pas pourquoi il faut prendre toutes ces contraintes. Là, c'est pas... Bon, mais c'est une dracha. Mais bon, ça fait partie... C'est seulement une petite partie de la paracha de Maaseh. La paracha de Maaseh, elle parle d'autres choses également. Alors, au début de la paracha, c'est Maaseh est proche de Bnei Gershon, d'Amhem, de Vétarotam, de Vétarotam. Il faut aussi faire le dénombrement des gens de la famille des descendants de Gershon, et à partir de Ben Shoshim Shana Bamala, Antramishim Shana, dans la tranche 30-50 ans, parce que c'est là que ils auront un rôle particulier à faire, ils ont une avoda, et puis ensuite ils vont être impliqués, comme les autres, dans le transport des parties du Mishkan quand les Bnei Israël se déplace dans le désert. Il faut à chaque fois qu'il quitte un endroit, il faut démonter le Mishkan, il faut l'emballer et le transporter. Et puis là où on arrive, on se réinstalle, on le déballe et on le remonte. Alors eux, chacun avait parmi eux, avait tous des charges particulières.
Ah, excusez-moi, ça vous entend très mal.
Pardon?
Vous devez masquer le micro, je pense. On vous entend parfois très, très lointainement.
Je vais essayer d'être plus proche de mon micro, mais... Ah, c'est peut-être mon CFR qui fait écran.
Oui, je pense. Merci.
Ok. Alors, ça. Ce que je voudrais voir avec vous, un peu plus loin, texte. Vous prenez, s'il vous plaît, le chapitre 5 et le verset 7. Et puis le pasuk Zayin. Alors regardez ce que la Torah dit ici. En fait, le paragraphe, le chapitre 5, il commence par l'obligation qu'on a de expulser des différents camps d'Israël une personne qui serait devenue impure. Une personne qui est devenue impure, elle a probablement pas fait de faute. C'est pas une faute, c'est un état. C'est un état d'impureté qui n'est pas compatible avec le fait de rester à une certaine distance, dans une certaine proximité du bêta, du Mishkan. Et ensuite, on continue au verset E, Mansé Vav, Abel Abel Israël, Isho Isha, un homme ou une femme, qui a sous Mikol Chatot Adam, qui fera une faute, de parmi les fautes que les hommes sont susceptibles de faire. C'est-à-dire, c'est une faute à l'égard d'un autre homme. C'est des fautes horizontales, si vous voulez. L'imol, mais seulement, cette faute qui est une faute à l'égard d'un autre homme, elle est présentée comme une me'ila. L'imol ma'al bashem ve'ashma al nefeshai. Et donc là, on présente une faute qui n'est qu'une faute horizontale, comme si la faute était une faute à l'égard d'Hachem. Et dans les fautes qui à l'égard d'Hachem, à son assez standard, on présente ça en général comme une me'ila. Me'ila, normalement, c'est le vol, mais la victime du vol, c'est le Beit HaMikdash, c'est Hachem, si vous voulez. Alors là, ça s'appelle Me'ila, et quand on doit réparer cette faute-là, alors, comme dans tous les cas de vol, il faut rembourser le lésé, mais là, comme le lésé, c'est Hekdesh, c'est le Amigdash, si vous voulez, fonctionnement du Bet-Amigdash, il faut rembourser, mais il faut aussi ajouter un cinquième, et il y a un korban Hacham, un korban de constatation de la faute. Il faut ajouter un corban. Et donc là, on a quelque chose de tout à fait particulier. Il faut ajouter donc un cinquième et puis en plus un corban. Ces versets sont un peu étonnants, si vous voulez, parce que, a priori, la construction de la phrase qui est un peu particulière, c'est pas du tout évident de la construire comme elle est construite, mais je vais pas entrer là-dedans, un peu trop technique peut-être, mais par contre, ce qui est important ici, c'est que le mot Ve Hacham, où on vient dire effectivement que l'homme en question, il a fait Ve Hashma HaNefesh Haï, c'est-à-dire il a fait une faute, Hacham, et a priori une faute à l'égard d'Hachem, justement. Et donc là, on a une situation particulière. Mais la question c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi tous ces délits, en quelque sorte ici, qui appartiennent normalement aux fautes Benatam le Chavero? C'est des fautes qu'on a commises à l'égard de son prochain. Alors pourquoi tout à coup c'est présenté comme si c'était les fautes contre Hachem? Alors il y a un sifra, c'est Rabbi Akiva qui répond, il lui s'interroge justement, mais pourquoi est-ce que c'est présenté comme une faute contre Hachem? C'est qu'en fait, celui qui, c'est quoi? Les relations interhumaines, elles se font avec des contrats, essentiellement. Et donc, des contrats, des témoins. Si ensuite, une des parties nie les engagements qui ont été pris devant témoins et dans les contrats, en fait, c'est quoi? C'est, bon, il va contredire les témoins, contredire le contrat. Et si par exemple, quelqu'un donne un objet à garder à son prochain, il en fait un chômeur, gardien de, et que, très souvent, celui qui a confié la chose à garder, il n'a pas l'intention, il ne voudrait pas que ça se sache. Il veut que ça reste discret. C'est toi qui le gardes, peut-être parce que il veut pas qu'on sache qu'il possède cette chose-là. Il le met en garde chez quelqu'un d'autre. Ça l'arrange. Et alors, bien sûr, ce qui se passe, comme toujours, c'est personne ne sait, sauf Hachem. Hachem, lui, il le sait. Et donc, quand quelqu'un va nier avoir reçu en dépôt, etc., ben, il nie, enfin, qui est-ce qu'il est en train de contredire? Il fait comme si Hachem ne le savait pas. Si vous voulez, on a un peu le même genre de problème que celui qu'on a dans les deux sortes de vols. Il y a des gens qui volent ouvertement. C'est une chutzpa, ils arrachent le sac d'une femme en plein jour. Il y a celui qui voudrait s'introduire en cachette, de nuit, etc. Celui-là, il fait comme si on le voyait pas. Il fait comme si Hachem non plus le voit pas. Parce qu'il fait nuit et que les autres gens le voient pas. Il fait comme si Hachem le voyait pas. Et il y a une dimension de gravité exceptionnelle, si vous voulez, dans le fait de, si vous voulez, c'est un chilul Hachem en même temps. Il y a le vol, qui est une chose abominable, etc. Mais, en plus, il y a une dimension de profanation du nom d'Hachem. Ce qui fait comme si Hachem ne savait pas. Ici aussi. Tu nies quelque chose dont Hachem est témoin. Comme il n'y a pas de témoin, puisque tu as fait les choses discrètement, il n'y a personne qui est témoin, il n'y a pas d'être humain qui est témoin, éventuellement. Bon, mais il y a toujours Hachem qui est témoin. Et donc, quand on va, si vous voulez, ça met en cause Hachem, si vous voulez, dans cette affaire-là. Ensuite, comme vous savez, parfois, on est amené à jurer. Par exemple, la Torah, elle dit que si A vient chez B et lui dit « tu me dois 100 », et B lui dit « non, je te dois 50 ou 25 », n'importe. Je ne suis pas obligatoirement à la moitié. Alors, la Torah, comme on est, la Gemara explique que la Torah, elle a compris la démarche du bonhomme. Elle va obliger celui qui reconnaît une partie de la dette, mais pas la totalité, on va l'obliger à jurer. Bon, après, il y a une question de formulation, mais en gros, ce qu'on veut, qu'il jure qu'effectivement, il ne doit pas le reste. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il jure? Parce que la Gemara explique que la Torah, elle a compris la démarche. Bon, aujourd'hui, les gens n'ont plus obligatoirement cette démarche, on va le voir, mais l'idée, c'était la suivante. Quand quelqu'un a emprunté de l'argent, A a prêté de l'argent à B, B a emprunté de l'argent à A. Donc, il est devenu son débiteur. B est devenu le débiteur de A. C'est une condition, c'est un rapport humain d'être le débiteur ou d'être le créancier. Alors, Barrel pense qu'il est difficile à quelqu'un qui est de facto le débiteur de nier sa condition de débiteur. Alors, il va régler le problème comme ça. Il va dire, je reconnais que je suis débiteur, par le fait que je reconnais une partie de ce que tu dis que je te dois. Mais d'un autre côté, je voudrais bien ne pas te rendre du tout. Alors si je pouvais nier la totalité, je nierais la totalité. Mais je suis obligé de reconnaître pour ne pas apparaître comme ingrat. Par rapport à lui-même, il n'arrive pas à affronter le regard de celui qui lui a fait confiance en lui prêtant de l'argent, hein, et en venant maintenant nier sa condition de débiteur. D'accord ? Alors la Torah l'a compris. Je te vois venir avec ton truc. Toi, tu veux seulement t'en tirer. Alors, on a compris qu'en vérité, tu dois beaucoup plus que ce que tu reconnais, et que tu reconnaisses uniquement ce qui te permet d'être en règle avec ta conscience. Ça va peut-être jusqu'à te dire que demain, ou si je fais des bonnes affaires, je lui rendrai la totalité. Alors, la Torah dit non, mais ça va pas se passer comme ça. Tu vas devoir jurer. Seulement, vous vous souvenez peut-être, vous savez peut-être, un serment, une choua, c'est toujours avec le Shem Hashem. Si quelqu'un dit, comme on dit en français, je te jure, etc., c'est pas une choua. La choua, c'est quoi? Quand est-ce que quelqu'un doit jurer? Très souvent, on doit jurer, par exemple, si quelqu'un, il a aide et rade contre lui. Normalement, les choses se règlent avec deux témoins. Mais si j'ai un seul témoin contre moi, je peux éventuellement, dans certaines circonstances, répondre à ce témoin-là par un serment. Je vais contredire ce témoin en jurant que ce que je dis est vrai. Quand je jure avec le nom d'Hachem, ça veut dire je prends Hachem à témoin que je dis la vérité. Alors, tout le monde comprend que si je prends Hachem à témoin que la vérité, c'est que c'est la vérité. Sinon, il y a des choses encore plus fortes. Certaines fois, le serment, il se fait en tenant un Sefer Torah. Par exemple, je tiens un Sefer Torah et je dis le nom d'Hachem, tu peux me faire confiance. Je suis pas un mécréant au point de, en tenant un Sefer Torah, en disant le nom, en prenant Hachem à témoin que je dis la vérité. Normalement, on me fait confiance. Si maintenant il s'avère que la personne, elle a juré et c'était faux, alors c'est gravissime. Parce qu'il a utilisé la crédibilité que lui donne le nom d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a utilisé Hachem comme ce nom-là, comme une marchandise comme une autre, quoi. Simplement, voilà. D'accord. Il a profané le nom d'Hachem. Il l'a rendu profane, c'est-à-dire normalement, on devrait trembler quand on dit le Shem Hachem, et donc on pourrait pas se permettre de dire un mensonge en prenant Hachem à témoin. La vérité, on ne devrait pas se permettre de dire un mensonge parce qu'Hachem est toujours témoin. Et quand je le prends vraiment à témoin dans la formule du serment, c'est on introduit le Shem Hachem, ça devient tout de suite gravissime. Ça prend une dimension verticale que n'avait pas le problème quand il c'était un problème uniquement horizontal entre deux personnes. D'un coup, il y a une composante verticale de profanation, et c'est ça qu'on va dire, c'est une meïla. Et c'est intéressant parce que, par exemple, étant donné que dans les relations de couple, ces relations, elles sont construites sur des kiddushin, c'est-à-dire sur une notion de kiddusha, de sainteté. Donc, la sainteté, c'est toujours par rapport à Hachem. S'il existe de la sainteté, c'est parce que Hachem est kadosh. Alors, ça implique de la doucha dans l'œuvre d'Hachem, en quelque sorte. Par conséquent, quand il y a, par exemple, un adultère, l'adultère, c'est un problème aussi horizontal. D'accord? C'est un des conjoints qui trompe l'autre. Bon, c'est horizontal. Non, ça s'appelle une meïla. Il y a une meïla, la femme qui trompe son mari, là, elle est vue comme quelqu'un qui a été Moël. Mais Moël, c'est Moël Bachem. Mais où était Hachem là-dedans? Parce que les Kiddushin sont des Kiddushin. Il n'y a pas cette transgression. Elle n'aurait pas cette dimension-là si c'était simplement un couple qui s'était fait avec comme une pilegesh ou un truc comme ça où il n'y a pas de Kdusha. Aujourd'hui, dans le mode de fonctionnement des gens aujourd'hui, ils ne font pas de Kiddushin entre eux, Ok, alors c'est un adultère, ça reste toujours éventuellement une tromperie, un mensonge, tout ce que vous voulez, c'est pas joli, mais il n'y a pas de dimension de Meïla, parce que je sais pas, on n'a pas voulu mêler Hachem à cette affaire-là. Donc il y a ici cette dimension là qui est très importante, c'est que il y a dans des questions qui sont des questions horizontales, tout à coup, Akadosh Baruch Hu est mêlé dans cette affaire-là. C'est une Meïla. Bon, pourquoi? Parce que tous les problèmes de confiance, comme on a dit, les contrats, etc., derrière tout ça, il y a toujours Hachem, en particulier dans la négation d'un picadon, d'un objet qui a été donné en dépôt, alors que personne ne le sait, que les deux parties en question, mais Hachem aussi le sait. Et si on vient à nier effectivement la réalité, la vérité, alors on est on transgresse effectivement l'engagement qui est pris aussi devant Hachem. Donc il y a une dimension de chilul Hachem, de profanation. Et c'est ça le... Alors, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'en réalité, c'est ça le fil conducteur de la paracha. Parce que bon, il y a ce lignal là de Meïla, d'accord, dans les relations que, dans les psukim que je vous ai cités, où effectivement, toute la procédure, elle est construite avec le Hacham de Meïla, etc. Et puis ensuite vient l'histoire de la Sota. Alors, dans la paracha de la Sota, si vous voulez bien prendre le texte, c'est la quatrième montée, on dit, d'abord vous avez donc d'avoir le Israël, Martha Lehé, Michel, Ish, Kistor, ou Maalabo, Maal. Vous voyez, dans le verset 12, bon, c'est un homme dont la femme a été infidèle, en fait. Et elle a fait Meïla, bon, elle a dévié en réalité, mais cet adultère a une dimension particulière, à savoir, de Meïla, de nouveau la même chose. Les gens, elle a fait quelque chose qui est caché aux yeux de son époux, elle s'est cachée, on va aller avec son amant, le cas échéant, et donc elle tient pas compte que tout ce qu'on fait est vu par Hachem. Donc c'est un adultère qui a une dimension aussi de profanation du nom d'Hachem de nouveau. Alors bon, là-bas c'est un peu spécial parce que on n'en sait rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui soupçonne sa femme, mais la Torah elle envisage très bien que le bonhomme en question, il est peut-être stam parano. Bon, c'est stam un bonhomme qui soupçonne pour rien du tout. Et lui, il interdit à sa femme, je veux pas que tu t'isoles avec Toto. Maintenant, la femme qui entend ça, lui, il fait ça devant témoin. Donc, c'est un peu humiliant pour la femme. Donc, quelque part. Imaginez une femme qui est elle a rien fait de mal. Simplement, le mari, il est parano. Alors, il prend deux témoins. Et donc, s'il prend deux témoins, c'est comme s'il publiait sur la place publique. Je soupçonne ma femme d'être adultère. Donc, imaginez la réaction que peut avoir une femme qui n'est pas adultère devant une accusation pareille. Alors, elle peut ou bien se dire, bon, il est parano, il vaut mieux arrêter les choses, il faut que je prenne des précautions particulières, ou bien elle peut se dire, en provocation, pas du tout, moi je peux même m'isoler avec Toto et il se passera rien. Bon. C'est pas parce qu'une femme s'isole avec quelqu'un qu'il se fasse obligatoirement quelque chose d'interdit. L'isolement lui-même est interdit. Et bon, les circonstances peuvent être telles que, bon, il y a eu un accident, je ne sais pas moi, il travaillait dans le même atelier ou dans le même bureau, etc. Il se trouvait que les deux là étaient tout seuls. Les portes étaient fermées. Il y a eu isolement. Normalement, il faudrait sortir en courant. Bon, voilà. Et supposez qu'il y ait deux, après l'avertissement, il y a maintenant deux témoins qui ont vu l'isolement. Ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Mais ils ont bien vu que les deux personnes, là, Toto et la femme du bonhomme, se sont retrouvées isolées pendant un certain temps. Et donc, il y a deux témoins. Alors maintenant, le problème, c'est que en faisant ça, la femme, elle a fait une faute, si elle l'a fait volontairement. On n'a pas le droit, elle n'a pas le droit de s'isoler, mais c'est pas une raison pour divorcer. Elle a encore rien fait qui justifierait un divorce. Dans la mesure où on a besoin d'une justification, quelqu'un qui veut divorcer peut divorcer. Qui veut divorcer, il divorce. Mais évidemment que si quelqu'un décide de divorcer, il devra payer la ktouba. Et suivant le montant de la ktouba, ça peut être un problème pour la personne. Et en général, les gens, ils aiment pas dépenser de l'argent. Et donc, s'ils peuvent divorcer sans que ça leur coûte rien, ils vont essayer de le faire. Et pour ce faire, il faudra accuser, par exemple, la femme d'avoir fait quelque chose qui l'oblige à divorcer, et par conséquent, elle n'aurait pas le droit à la ktouba. En tout cas, ils ont mis le doigt dans l'engrenage ici. Donc, il y a toute une procédure, on va au tribunal, éventuellement, ensuite, on arrive à un tribunal jusqu'à Yerushalayim. Et ces deux-là, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus le droit de vivre ensemble. Plus le droit. Ils sont encore mariés femmes, c'est-à-dire que la femme, elle ne peut pas partir avec quelqu'un d'autre, elle est épousée quelqu'un d'autre, elle ne peut pas, mais eux-mêmes, entre eux, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est comme une ordalie, c'est-à-dire qu'ils ont appelé Hachem au secours pour régler leurs problèmes. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est ils vont aller faire une procédure et demander à Hachem, est-ce que le bonhomme, il va dire, est-ce que je peux vivre avec cette femme ou non? Donc, si vous voulez, là, de nouveau, il fait appel à Hachem. Ils vont faire appel à Hachem. De la même, donc, automatiquement, dans cette situation où il y avait déjà un problème de profanation éventuelle par le fait qu'il y avait vraiment eu adultère, mais là, on ne sait pas s'il y a eu adultère. Mais en tout cas, il fait appel à Hachem. Et elle marche. Elle pourrait dire, par exemple, bon, je continue pas la procédure. Je perds la ktouba, mais il va me dire. On sera obligé de divorcer, donc je divorce, à mes torts, bon, mais je vais pas continuer cette procédure. Ou bien parce qu'elle sait qu'elle est adultère, qu'elle sait que le cas échéant, ça va mal tourner pour elle, ou bien parce qu'elle a peur, simplement, et puis elle a pas envie non plus, même, vous voyez, même si après, le résultat, c'est que bon, il s'est rien passé, elle est en rien fautive, il n'y a pas d'adultère. Durant la procédure, il y a eu toute cette dégradation, on lui a défait sa coiffure, on lui a découvert les cheveux, a tiré sur ses vêtements, déchiré ses vêtements, etc. Et bon, essentiellement, un vrai spectacle auquel tout le monde était convié, mais il y avait des gens qui ont vu, et pour elle, c'est insupportable. Donc elle pourrait très bien dire je continue pas. Et nous on n'est pas dans la Gemara, on voit très bien, on n'est pas du tout intéressé à ce qu'elle continue. Parce que même si elle est fautive, on veut pas qu'elle meure. Elle ne mérite pas de mourir puisqu'il n'y avait pas de témoins. S'il y a eu des témoins, on l'aurait condamné. Il n'y a pas de témoins. Même s'il y a eu adultère, c'est un adultère sans témoins. Donc aucun tribunal ne peut condamner un adultère sans témoins. Le témoin, ça veut dire qu'il faut plus que des témoins qui voient qu'ils soient isolés. Le témoin qui voit qu'ils se sont comportés comme des personnes qui avaient un rapport. Bon, ils n'ont pas besoin d'être là, tenir la bougie au plus près, mais il faut quand même qu'ils voient qu'il y a un vrai comportement qui a priori le comportement de personnes qui ont un rapport. Et s'ils peuvent pas, et ils ont averti ces deux personnes que si elle faisait ce qu'il semble vouloir faire, c'est passible de mort. Et d'après certains, il faut même dire quelle sorte de mort ils encourent. Et si toutes ces conditions sont pas remplies, et puis il faut agir dans les secondes qui suivent l'avertissement. Donc si tout ça n'est pas rempli, on pourra jamais les condamner. Donc, comprenez bien que c'est jamais rempli. C'est pas possible. Même s'il voulait, il n'arriverait peut-être même pas à le remplir, les conditions. Donc, ces personnes-là, elles ne méritent pas de mourir. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors, prends l'opprobre éventuellement d'avoir divorcé, de dire, ouais, si elle a pas continué, c'est qu'elle était fautive, d'accord, mais peut-être que ta peau, elle vaut plus que ça, et la honte qu'il y aura, même si ensuite ça sort positivement, on verra que ça peut sortir positivement pour toutes sortes de raisons. Mais là aussi, c'est marqué tout de suite, au ma'ala, beau ma'al, que la femme la soupçonne de Mehila, c'est-à-dire la soupçonne d'avoir, par cet adultère, fait une Mehila. La Mehila, c'est l'adultère lui-même. C'est-à-dire, quelque part, puisqu'il y avait des Kiddushin entre eux, un problème de Kdusha, dans un mariage, on met l'Hachem, si vous voulez, dans le mariage. Et du coup, tout ce qui sont des coups de couteau dans le contrat de mariage, ben ça, éventuellement, ça dépend de la gravité du coup de couteau, mais c'est des questions qui touchent de nouveau le problème de la Mehila. Donc c'est quelqu'un qui veut, à la limite, qui dit, moi je vais pas me contenter de ce que je sais, ou de ce que je crois. C'est étrange comme démarche. Tu veux divorcer, mais divorce. Tu veux pas divorcer, personne ne t'oblige à divorcer. À dire que tu veux divorcer. N'avertis pas. Ne t'embarque pas dans les choses pareilles. Non. Quelqu'un qui pense, là on peut se demander pourquoi il pense comme ça. Pourquoi il pense? Moi, je peux pas me contenter de ce que je crois ou moi il faut que ce soit le bon Dieu qui me dise si je peux continuer mon couple ou pas. À moins que ça, je continue pas. Je crois que le Hachem, il n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de ton problème, là. Enfin, c'est, si vous voulez, je dis ça un peu comme une parole infantile, mais c'est quoi ça? Je peux pas rester... Ben, c'est assez grand. Tu veux continuer avec cette femme ou tu veux pas continuer? Tu veux pas continuer, alors ne l'avertis pas, ne lui dis pas, je veux pas que tu t'isoles avec Toto, etc. Donne-lui son guet, c'est gamin, on s'est terminé, on n'a pas besoin de justice. Bon, c'est tout. Tu veux plus, ben, continue pas. Tu veux oui, alors, bon, alors passe, tais-toi. Dis-lui entre que tu préférerais, etc., sans prendre des gens, des témoins, et de publier les choses sur la place publique. Discute avec elle. Des êtres de langage. Parle. Dis-lui que t'as pas envie que ça te gêne. Okay. Ensuite, elle pourra t'expliquer pourquoi elle le fait, ou bien si vous avez des relations normales, elle le fera plus. Ben, elle le ferait. C'est que ça t'ennuie, elle n'est pas obligée de le faire. Donc c'est quelqu'un qui mobilise Hachem. Hein. Lui, il va chercher Hachem, en quelque sorte. Moi, je veux, ça, en français, ça s'appelle une ordalie. Il va chercher Hachem. Je veux le jugement du ciel. C'est jamais bien, le jugement du ciel. Même Sarah Imenu, quand elle a appelé le ciel à témoin, pour qu'il juge entre elle et Abraham Avinu, ça s'est retourné contre elle. Bon, parce que personne n'est assez parfait pour pouvoir appeler le jugement de Shem sur quelqu'un d'autre. Shem dit, attends, avant de regarder le quelqu'un d'autre que tu m'appelles à juger, on va regarder qui tu es, toi, qui appelle l'autre, qui appelle le jugement sur l'autre. Comme personne n'est sans faute, on est le premier condamné, la première victime de cette affaire-là. Donc, il faut jamais le faire. Et là, lui, il s'est embarqué là-dedans. Et elle est un peu coincée. Là. Ce qu'elle pouvait faire, c'est ne pas s'isoler. Et des fois, c'est une provocation. Quoi. ça lui était peut-être trop difficile d'entendre publier qu'il la soupçonne. C'est difficile de vivre comme ça. S'il lui disait, écoute, en privé, c'est déjà difficile à entendre, mais publiquement, c'est difficile. Je ne sais pas comment, ce que vous pensez, mais c'est évident que, en tout cas, c'est pas de bonne guerre, quoi. C'est pas, en tout cas, voilà, il y a une Meïla au tout début. Et puis, là, lui, Akadosh Baruch Hu, il va devoir accepter qu'on efface le nom d'Hachem dans l'eau. Vous connaissez la procédure. On va réécrire tout ça de la paracha de la Sota sur un parchemin à part. On va effacer ça dans l'eau. Elle va boire cette paracha en quelque sorte. Elle va boire cette eau. Et donc, comme dans cette eau, dans cette paracha, il y a le nom d'Hachem, c'est comme si elle avait ingurgité le nom d'Hachem. Et donc, le nom d'Hachem est confronté à la réalité de ce que est cette femme, de ce qu'elle est. Et donc, si elle est en ordre, alors le nom d'Hachem sera bénédiction. Donc, elle aura une bracha. C'est-à-dire, comme dit l'Agmara, et bon, si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura. Si elle avait des garçons, elle voulait une fille, elle aura une fille. Si elle a des filles, elle veut un garçon, elle aura ça. Elle va avoir ce qu'elle veut. Elle aura une bracha. Mais si, par contre, elle est adultère, si donc ses entrailles ont participé à cette meïla, cette profanation du nom de l'Hachem, alors elle va exploser d'une certaine manière. Bon, parce que le nom d'Hachem pourra continuer de résider dans cet endroit-là et ça va exploser.
Rav, je ne comprends pas quelle est votre question quand vous amenez que pourquoi cet homme n'essaie pas de parler et d'arranger les choses directement avec son épouse. C'est ça que vous avez amené comme question, j'ai pas bien compris.
C'est pas ça ma question, mais c'est aussi une question. C'est une question. Pourquoi appeler Hachem là-dedans? Un être humain. C'est des affaires entre deux êtres humains. Et d'accord. Il n'est pas d'accord avec la façon dont elle se conduit.
D'accord.
Parler.
Non. Mais pourquoi la Torah fait toute cette question?
Parce que la question de la Torah, justement, la Torah, elle vient justement dire que, en fait, elle vient te montrer jusqu'où ça peut aller. Que le problème de l'adultère, d'abord, c'est un problème de Meïla. C'est-à-dire, automatiquement, Hachem est mêlé à cette affaire-là, mais il faudra limiter les dégâts. Et maintenant, on envisage que quelqu'un veuille mêler volontairement Hachem. Dans ce qu'on a vu avant, dans les problèmes de contrat, etc., Hachem est mêlé, mais pas par des gens ils se sont pas assis en disant, je vais mêler Hachem dans l'affaire. Ce qu'on veut expliquer, ce que la Torah explique, c'est que, même si eux n'en sont pas toujours conscients, alors quelque part, dans le fait de se dire, ma personne ne me voit, et faire comme si Hachem, donc, il est inclus dans le personne, et ça veut dire, il ne me voit pas, c'est ça la gravité de la chose. Mais ça veut dire, on profane le nom d'Hachem, mais pas volontairement. Mais ici, lui, il s'embarque dans quelque chose où il appelle Hachem à l'aide. Et je veux rien moins une décision divine sur cette question-là.
Parce que oui, mais en même temps, ça peut être à contrario, il peut se dire bon, puisque c'est marqué que la Torah me dit si
mais
tu
non,
as un doute,
la Torah elle permet de faire quelque chose, mais on voit très bien que c'est pas bien. On voit bien d'ailleurs, on voit très bien que tout le travail de la Gemara dans la Maseret Sota, c'est tout le long du chemin, tout le long de la procédure, c'est qu'on n'arrête pas de dire à la femme, écoute, il ferait mieux de descendre du train, quoi. Arrête le voyage.
D'accord.
Mais
vous avez posé la question parallèlement de savoir mais qu'est-ce qui motive, entre guillemets, cette volonté de cet homme de faire ça. Il semble que ce qu'il y a derrière, c'est la jalousie. Et la jalousie
est quelque chose. C'est le problème lui-même.
Et le problème.
Le divorce, c'est le divorce.
C'est plus complexe que ça, il me semble, la jalousie. C'est que justement, on n'a pas envie de la jalousie, c'est un sentiment extrêmement fort. ça ne se résout pas en disant bon bah écoute, puisque j'ai le sentiment que ça va pas, on divorce. La jalousie, c'est un sentiment qui mélange à la fois, je sais pas, on va dire de l'amour, de la haine. C'est un sentiment qui peut-être, ce sentiment justifie-t-il justement tellement.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose sur la jalousie. Oui. Voilà. Mais pour ça, il faut être alsacien. Mon premier a des dents. Mon deuxième a des dents. Mon troisième a des dents. Et mon tout un vilain défaut qui ronge le cœur des hommes. La solution, c'est la chalousie. Le chat, vous et la scie.
Effectivement.
Chalousie est un peu alsacien, mais ça va. Alors, vous voyez, qui ronge le cœur des hommes. Il faut pas. C'est la jalousie, c'est pas une excuse. C'est un défaut. C'est-à-dire, la Torah, elle vient pas justifier ta jalousie. La Torah, elle te dit, on va le voir par la suite. Vous allez voir la situation du nazir par la suite. Le nazir, c'est quelqu'un qui, a priori, est fautif. Et d'après une opinion, il est fautif jusqu'au bout. Mais il est fautif, mais aussi éventuellement kadosh. Mais ça, on va le voir. Mais là, il faut que vous attendiez, parce que je pense que c'est ça le fil conducteur. C'est le problème de mêler Hachem involontairement ou volontairement et de provoquer de ce fait un chilul Hachem. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, c'est formidable d'être en présence d'Hachem tout le temps, mais il y a un risque de profanation. Donc c'est dangereux, il faut être à un certain niveau, ou à un niveau certain, si vous voulez, pour pouvoir vivre avec cette proximité d'Hachem. Sinon, quand on va mêler Hachem, mais là aussi, c'est une façon de prendre Hachem à témoin de, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas te contenter, la Torah, elle a dit, tu peux divorcer. Tu veux pas divorcer, alors divorce pas. Parle avec elle, débrouillez-vous. Pourquoi elle te donne l'impression de s'isoler? Si c'est pas vrai, si c'est vrai, alors divorce, tu dois divorcer. Mais si c'est pas vrai, pourquoi elle te donne cette impression? Peut-être que, elle a peut-être le sentiment que tu t'occupes pas de toi, pas d'elle. Peut-être elle voudrait que tu la regardes un peu autrement, mais que tu regardes. Et toi, au lieu de regarder comme il faut regarder, tu l'embarques dans une question comme la parashat Sota. La parashat Sota, c'est une possibilité. Mais on va pas dire qu'il y a une mitzvah de divorcer parce que la Torah, elle a envisagé le divorce. Mais ça existe. La Torah, elle te donne des possibilités. On n'est pas dans l'église catholique où on peut pas divorcer. Ça sert à quoi de dire qu'on ne peut pas divorcer? La bêtise.
Rabbi?
Oui?
Il me semble qu'il y a une autre personne qui a été tentée d'utiliser quand même ce passage de la Sota. Je crois que c'est Anna.
C'est un midrash qui dit qu'Hachem a menacé Hachem.
Oui.
Hana, elle a menacé Hachem. Voilà. Parce que, là, jusqu'au bout, après, vous connaissez déjà la suite, mais jusqu'au bout. Donc, dans cette procédure, comme je vous ai dit, elle a ingurgité le nom d'Hachem. Et ça se base super bien ou super mal. Alors, on pourrait se dire, c'est ce qu'il y a un midrash qui fait, quand Hana, la mère de Shmuel, avant qu'elle ne devienne la mère de Shmuel, elle a eu beaucoup, beaucoup de tsarot pour avoir un enfant. Elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Alors, il y a un midrash qui dit que elle s'est tournée vers Hachem et elle lui a dit, écoute, tu me laisses pas le choix. Je vais être obligé de me faire passer pour une sota. Et comme j'aurais rien fait de mal, tu seras obligé de me donner une bracha. Et la bracha, tu seras obligé de me donner un enfant. On ne m'oblige pas à en passer par là. Parce qu'effectivement, si quelqu'un est sûr de son coup, enfin, le problème c'est que je sais pas comment que ça marche parce que il faut l'accord du mari. Pour ça. Le mari soit d'accord parce qu'il faut que le mari lui interdise de parler avec quelqu'un, qu'ensuite elle puisse s'isoler avec quelqu'un qui n'a pas le droit de s'isoler avec elle non plus. Donc c'est quelqu'un qui va être d'accord de faire une espèce de mini avera pour qu'elle, elle, donc est-ce qu'on, ça c'est déjà un problème en soi. Par ailleurs, est-ce qu'on dit à quelqu'un fait une faute pour que ton copain il ait un grand mérite? Kote bishvil sheyizke chavercha. On ne dit pas ça à quelqu'un. On ne peut pas dire, écoute, peut-être tu fais une petite faute et grâce à ça, moi, j'aurai un grand mérite. J'ai un grand profit de la petite faute que toi, tu vas faire. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, c'est pas sûr que le scénario était vraiment jouable. Mais bon, c'est une façon de dire elle voulait dire à Hachem, je peux t'obliger à me donner un enfant, mais ça voudrait dire que tu m'obligerais à faire des choses qui sont pas très nettes. À ce moment-là, tu seras obligé de me donner un enfant.
Bon, je reviens.
On va donc, dans cette procédure, l'essentiel, c'est que on efface le nom d'Hachem dans l'eau que la femme va ingurgiter. Donc, ça va mettre le nom d'Hachem en elle. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il se peut très bien que la femme soit adultère et que ça ne marche pas, qu'elle ne meurt pas. Et que le résultat, c'est qu'elle a survécu. Pourquoi? Parce que si le mari il n'est pas net, ça ne va pas marcher non plus. Si lui, il a des problèmes, bon, si lui, il n'est pas vraiment net, par exemple, si lui, durant la période dans laquelle, entre le moment où elle s'est isolée devant témoin, et le moment où elle va arriver au tribunal à Yerushalayim. Si eux, ils ont voyagé, peut-être ils étaient ensemble, peut-être ils ont eu des rapports, c'est mari et femme, ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports, mais s'ils ont eu des rapports, ça ne va plus marcher du tout. Parce que lui, il n'est pas net, il n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Donc, par exemple, comme ça. Et à part ça, il y a aussi un autre problème, qui est un problème beaucoup plus délicat. Je ne veux pas en parler trop longtemps, mais c'est un problème de sroot. Il y a une notion de mérite. La Gemara, elle dit là-bas qu'il y a des circonstances qui font que même si la femme, elle, normalement, elle devrait éclater, si vous voulez, parce qu'elle est adultère, mais elle peut avoir par ailleurs des mérites qui font que, en tout cas, c'est dilué dans le temps. C'est pas qu'elle va éclater comme ça. Et peut-être elle va finir par mourir de problèmes, dans son ventre d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, elle va pas mourir. Donc le sroute, il est ce qu'on appelle tolé. Peut-être qu'elle va être en suspens. Son jugement est en suspens. Et donc le problème ici, le srout est tolé, ça veut dire que a priori, on peut très bien avoir un résultat qui dira à ce bonhomme, tu peux continuer de vivre avec cette femme. Et ce qui est plus que ça, c'est que si effectivement le résultat était positif, ça veut dire qu'elle n'est pas morte, ça veut dire qu'elle a survécu, donc tu as le droit de vivre avec elle, mais lui, il est obligé de vivre avec elle, il ne peut plus divorcer. Elle peut divorcer si elle veut, mais lui, il peut jamais divorcer de cette femme. Parce que le ciel t'a dit que tu pouvais. Alors. Donc, quelque part, on a une situation un peu étrange sur laquelle je ne vais pas entrer maintenant, mais il se pourrait que le résultat des courses, ce serait, tu dois vivre avec elle. Si elle veut continuer de vivre avec toi, vous allez vivre tous ensemble. Vous allez continuer de vivre alors qu'elle est adultère. Elle a été adultère. Elle était obligée de... Puisque tu as passé par Hachem et que tu t'es pas bien conduit et du coup tu as fait rater l'opération, l'opération qui rate, elle dit que la femme est sans problème, elle est permise. Et du coup, si elle est permise, alors il est obligé de rester avec elle. Donc vous voyez, c'est un sujet compliqué, c'est un grand sujet difficile dans cette Maseret Sota. Je vais essayer de la réfléchir. Mais en tout cas, ce qui était important, me semble-t-il, dans cette paracha, pour l'instant, c'est ce recours à la décision divine. C'est quelqu'un qui se contente pas de la décision divine, de la décision qu'il doit prendre. Tu es marié, ben, tu dois gérer la chose. Tu veux continuer de vivre ou tu veux pas continuer de vivre avec elle? Et ensuite, il vient la paracha du nazir. Et le nazir, c'est quelqu'un qui, c'est une forme de vœu, c'est un vœu. Quelqu'un pourrait par exemple faire le vœu de ne pas boire de vin. Il pourrait faire le vœu de ne pas se couper les cheveux pendant un certain temps. Il pourrait faire un vœu de ne pas entrer dans un cimetière. S'il faisait ces trois vœux-là, il aurait trois comportements obligatoires à respecter, mais il ne deviendrait pas pour autant nazir. Pourtant, le nazir, l'état de nazir, c'est ça que ça entraîne. Mais ça, c'est, le nazir, c'est, par un certain vœu, tu te mets dans une certaine situation. Dans cette situation, tu es un peu comme un Cohen, par exemple. Un Cohen, il n'a pas le droit de se rendre impur, d'accord? Parce que c'est sa condition de Cohen. Un Cohen, il ne peut pas épouser une divorcée, c'est sa condition de... Et tout ça, c'est, ça dérive du fait qu'il est Cohen. Et donc, les interdits du vin, de couper les cheveux et de se rendre impur, dérivent de son état de nazir, qui est la résultante de son vœu. Il a fait un vœu, ça existe dans la Torah, quelqu'un qui fait vœu d'être nazir. Alors on peut devenir nazir pour un laps de temps qu'on peut fixer à l'avance. Quelqu'un peut être nazir pour un mois, pour un an, etc. Il y a aussi celui qui veut être nazir pour toute sa vie. Et puis, bon, il y a des, évidemment comme tout, dans les nedarim, dans les vœux, il y a toutes sortes de situations. Et là aussi, il y a un grand problème. La Gemara, elle dit que si quelqu'un se prive de vin, il fait un vœu de pas manger, pas boire de vin du tout, il est d'une certaine manière choté. Il est fautif. Tu veux pas boire de vin, hein, bois pas de vin. Mais te mettre dans la situation, te t'interdire, c'est quelque chose de point de, il y a plusieurs points de vue qui font que c'est pas bien. Premièrement, tu fais comme si les 613 mitzvot de la Torah n'étaient pas suffisantes. Il n'y a pas assez d'interdits, il y a 365 interdits. Tu en as besoin d'un 366e. Comme les fois. Tu fais comme si la Torah n'avait pas prévu toutes les situations. Est-ce que ça, tu veux... C'est une mitzvah, donc il peut le faire. Mais d'une certaine manière, quand tu le fais, tu montres, tu fais comme s'il y avait une espèce de manque, d'imperfection du système des mitzvot qui t'oblige à en rajouter. Ça, c'est sur n'importe quel comportement que tu élèves au rang de mitzvah. Alors, en particulier, mais celui-là, hein, parce que c'est quelqu'un qui se prive de quelque chose. Et si Hachem nous a donné la possibilité de profiter de ces choses-là, c'est pour des bonnes raisons. Ça veut dire que il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose d'important à pouvoir utiliser la carte Yaïn. Le vin, c'est quelque chose qui met en joie. Et c'est une des façons qu'on a de céder, d'arriver plus facilement à la joie en buvant. Alors, il s'agit de savoir jusqu'où on va boire, sympa. Il s'agit de le petit coup de pouce que ça peut donner. Il ne s'agit pas de se mettre en état d'ébriété. Et on ne peut pas non plus remplacer le vin par n'importe quelle drogue, qui mettra aussi éventuellement en joie pour un certain moment. Mais ça fait partie des choses qu'Hachem nous a données, choses qui jouent un rôle important, et tu te prives de ça, et celui qui se prive, il est appelé crotté. Il fait une faute. Par conséquent, quelqu'un, il devient nazir, d'accord, il fait une faute. Il s'interdit la jouissance de certaines choses, qui sont permises, qui sont même souhaitées par la Torah dans certains cas. Alors, d'un autre côté, il y a des psaumes qui disent que si ça a réussi, alors il est appelé Kadosh. il a appelé ça. Et je crois que c'est absolument, il dit que il est à la fois Choté et Kadosh. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a pris une voie qu'il ne fallait pas prendre. Non, il a eu de la chance, ça a pas mal tourné. Bon, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais bon, ça, finalement, il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu dans cette affaire-là. Mais c'est aussi de nouveau quelqu'un qui utilise, disons, tu fais comme si c'est aussi une profanation du nom d'Hachem, puisque tu fais comme si ce qu'Hachem a prescrit n'est pas suffisant. Et donc, si vous voulez, il me semble que le fil conducteur, si vous voulez, dans ces parachas, c'est ça. C'est le problème de la relation avec Hachem. Bon, à partir du moment où on est entré dans le désert, et donc on est en permanence en relation avec Hachem. On est en permanence dans cette situation où on mange, on boit, on est protégé par Hachem. On vit une vie tout à fait hors du commun. Donc, avec une grande proximité avec Hachem. Parce que tous les jours, quand tu vas manger, tu manges la manne, tu manges le pain qui est tombé du ciel. Bon, donc, vous avez à boire, ok, on a à boire parce que à cause de puits de Myriam, vous êtes protégé de tout, là, sur une nuée de toutes sortes qui vous entourent. Donc, tu vis dans cette situation de proximité avec Hachem. Mais, bien qu'il y ait cette grande proximité, la Torah ne veut pas que ce soit banalisé en quelque sorte. Elle veut pas que les choses soient analysées. Il faut que ça soit limité exactement à ce que la Torah a permis, et pas plus. Donc, c'est chaque fois des erreurs, en quelque sorte. Et qui sont des erreurs dans la relation avec Hachem. Parce que finalement, à force d'être dans une relation permanente avec Hachem, ça pénètre tout. Ça pénètre toutes les relations horizontales également. Puis la tentation est effectivement, au fond, c'est comme si on appelait à Hachem pour résoudre des problèmes. Comme si c'était comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a un problème, il demande à Hachem. Lui aussi, il a un problème, lui, dans son couple, il demande à Hachem, règle-moi ce problème-là. Et donc, c'est pas fait pour. Ce dialogue direct avec Hachem, cette demande à Hachem d'intervenir directement dans ce que je pourrais faire par moi-même, c'est en fait un fil de Hachem. Parce que c'est une banalisation de... C'est pas fait pour ça.
Rabbi.
Oui.
Alors, dans ce cas-là, comment vous commenteriez le souhait que nous avons tous, hein, c'est très commun, dans certaines décisions de nos essais de pouvoir valider nos décisions par le ciel, quoi. Alors, parfois peut-être que ce n'est pas une question de mariage ou là on a mis de facto Hachem dans cette dans le fait même par exemple d'un mariage, mais des décisions que il nous paraît difficile de valider par nous-mêmes.
Par exemple.
En affaire, par exemple, moi, ce qui me vient à l'esprit, parce que je me sens concerné, je me suis senti concerné, des décisions dans le domaine, par exemple, des enfants, prendre la bonne décision dans des cas qui peuvent être d'ailleurs liés à des divorces. Alors je sais par ailleurs que ici on va plutôt s'orienter vers des conseils de rabbanim, mais néanmoins le rabbin, lorsqu'il prend une position, lorsqu'il va donner un conseil ou sa position lui-même, le fait en fonction de ce qu'il croit être validé par le ciel. Vous voyez, donc c'est quand même
difficile. Pas la même chose, non? Vous n'allez pas demander au ciel de se manifester dans la décision que vous devez prendre. Vous n'allez pas vous demander au ciel de se substituer à votre décision. Ceci mis à part, si vous voulez, dans le pasouk, c'est écrit clairement sur Rivka, quand Rivka s'est trouvée enceinte et qu'elle comprenait pas ce qui lui arrivait, parce que l'enfant qu'elle pensait qu'elle avait un seul, il avait des comportements qu'elle n'arrivait pas du tout à comprendre, et qu'elle, après avoir demandé autour d'elle, une femme qui avait une expérience, ce qu'il en était, qui avérait que personne n'avait une expérience comme la sienne, on s'est marqué, va t'aller l'hydroche et Hachem. Rivka est allée consulter Hachem. Ce qu'elle a fait, vous voulez consulter Hachem. Vous croyez qu'elle s'est mise au, qu'elle a crié vers le ciel? Non, elle a c'est marqué, elle a allée à l'Yeshiva de Shem Ever. Elle a allée à l'Yeshiva, elle est allée chez le Rabbanim. C'est ça qu'on appelle demander à Hachem. Mais c'est pas du tout. On sait très bien que quand tu demandes, même quand on demandait à un prophète, ce qui est plus que de demander aujourd'hui, mais le prophète, c'est pas Hachem. Le prophète, il a une fonction, et dans certains cas, les prophètes, ils ne sont pas répondus à tous les coups. Bon, dans certains cas, effectivement, le prophète, il pourra obtenir, il pourra comprendre, Hachem lui enverra un message, il lui donnera à comprendre, parce qu'il est prophète, peut-être qu'il y aura des signes qui vont, ouais, des signes, que ce soit ses rêves ou autre chose, qui vont lui donner une information, qui va valider, parce qu'il est prophète, il saura que c'est bien ou pas. Et nous, après maintenant, on va chez la femme, il n'y a plus de prophète, on va chez un sage, et on demande au papa, mais lui aussi va essayer de réfléchir, va essayer de s'inspirer de tous les enseignements qu'il a emmagasinés, si vous voulez, et avec ça, éventuellement, il va peut-être même prier pour qu'il y voit clair. Bon, c'est ça. Mais ensuite, c'est lui qui va décider, et on sait très bien que c'est ça la relation avec Hachem. Cette relation-là, elle est tout à fait normale. Ce qu'ils font là, eux, c'est quasiment appeler Hachem lui-même. Quand il appelle Hachem, c'est une ordalie en français. Je veux qu'Hachem dise. Et c'est un peu ce que Sarah Emeno a fait. Elle n'a pas été demandée à Hachem et Ever ce qu'il fallait faire avec Abraham. Elle lui dit, Ishpot Hachem, Hachem juge entre toi et moi. Elle n'est pas allée se faire juger chez Hachem et Ever. Elle a demandé qu'Hachem directement juge. Ça s'est retourné contre elle. Là aussi, c'est une différence. Évidemment, ce qu'on veut, on demande d'avoir l'aide du ciel. On veut ce qu'on appelle Siata Dishmaya, l'aide du ciel. Et on veut que Hachem fasse que, dans notre réflexion, comme il nous vient toutes sortes d'idées sur toutes sortes de sujets, ou la bonne idée, quoi. Quelque part, Hachem nous donne Atzat Hachem Itakum, ça veut dire le conseil d'Hachem, c'est ça qui va se réaliser. Je demande à Hachem qui m'aide à trouver, il va vraiment se réaliser. Mais là, c'est autre chose.
Ce que je voulais simplement ici ressortir, c'est que lorsque un homme va vers son rabbin pour l'aider dans des décisions difficiles à prendre seulement en son nom, quelque part, le rabbin, pour lui, c'est l'intermédiaire avec le ciel. Et donc, quelque part, ce que va dire le rabbin, lui, va être censé l'interpréter comme étant un signe positif de validation du ciel.
Mais c'est ça qu'Hachem nous a dit. C'est pour ça qu'il y a des rachamim, des prophètes, puis des rachamim. C'est les gens qui ont une relation avec Hachem qui est la résultante des efforts qu'ils font. C'est pas demander directement à Hachem sans préparation, c'est bien direct. Donc, l'indirect, c'est quand les gens allaient consulter Moshe Rabbeinu, vous pouvez bien vous imaginer que probablement certains d'entre eux devaient penser qu'ils allaient consulter Hachem lui-même.
Bien oui.
D'accord, mais c'est pas vrai. Et ça, c'était permis. C'est permis d'aller consulter Moshe.
Donc vous validez.
Consulter Moshe Rabbeinu. Et c'est pas là, lui, il va pas consulter. Il n'est pas allé consulter le Sanhedrin Agadol pour savoir ce qu'il doit faire. Il est allé consulter Hachem. C'est pour ça que ça se passe au Beth Amikdash, ça se passe pas au tribunal. Il n'est pas.